cinquième émission, oui, depuis notre arrivée au mois de mars sur les ondes de choc.ca. Donc, saison d'été qui a commencé il y a 2 semaines. On va être là avec vous tout l'été jusqu'à l'automne et on espère continuer évidemment à l'automne. C'est Mathieu qui est au micro en compagnie de Marie-Ève.
Bonjour.
Et de Simon à la console, entre autres. On va l'entendre dans quelques secondes. Donc, aujourd'hui, en ce 19 mai, qu'est-ce qu'on a au programme, au menu? On a, entre autres, l'agenda antiraciste, comme à chaque 2 semaines, les actualités européennes sur les élections qui se passent très bientôt avec Marie-Ève. On va voir aussi le bon coup de la semaine avec Simon. Entrevue avec Alix du projet Accompagnement Solidarité Colombie, le PASC, dans quelques minutes. Un spécial portrait tout étoile de Jason Kenney, notre redneck préféré. Et on va commencer dans quelques secondes avec les actualités locales. Et Simon, peut-être vous signaler que nous sommes en direct aux 2 semaines à 15h les dimanches. Et aussi, vous pouvez nous écouter en balado à tout moment au choc.ca. On a une page d'émission. Vous pouvez aller nous écouter en tout temps les émissions passées comme les émissions qui s'en viendront. Et sinon, nos coordonnées plus générales des Apatrides Anonymes, c'est apatridesanonymes.info. Sinon, notre courriel, c'est apatridesanonymes@resist.ca pour nous rejoindre en tout temps et nous donner des informations. Donc, on va y aller dans quelques minutes avec les actualités locales, mais qui sont nationales cette semaine, fédérales, avec Simon. Donc, bonne émission, bonne écoute.
Alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Simon au micro, est-ce qu'on m'entend? Je pense que oui. Oui, merci Marie-Ève de confirmer. Pour les actualités locales, fédérales, un peu la suite de ce que Mathieu nous a parlé lors de la dernière émission. Donc, à l'instar de ce qu'il nous a raconté, il nous parle un peu des Sunny Ways de Justin Trudeau, les voies ensoleillées, qui finalement sont de moins en moins ensoleillées. Donc, on pourrait parler entre autres de Rainy ways,
shady ways,
cloudy ways. Donc, le ciel s'obscurcit à la veille des élections qui s'en viennent. Je crois que c'est à l'automne et ça risque d'être la tempête totale. Entre autres, Mathieu nous parlait d'amendements à la loi sur l'immigration qui sont passés en douce dans un bill omnibus sur le budget. Et oui, drôle de façon de fonctionner. Des amendements qui restreignent de façon importante l'accès au statut de réfugié. Donc, qui rendent beaucoup plus difficiles les procédures de demande d'asile, à la fois l'accès aux procédures, les modalités de le traitement, etc. Donc, je reviendrai pas là-dessus dans le détail. Vous pouvez toujours écouter notre émission du 5 mai sur choc.ca ou sur apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi trouver de l'analyse très pertinente sur ce bill omnibus-là et ses conséquences sur la loi de l'immigration dans les sites de Solidarité sans frontières et du Conseil canadien des réfugiés qui ont fait des analyses assez intéressantes sur ce sujet-là qui est passé un peu sous le radar dans les... comme à chaque fois qu'il y a un bill omnibus, comme on dit la dernière fois, on en profite pour passer toutes sortes de petites mesures... Puis ça passe assez subtilement d'habitude. J'aimerais toutefois apporter un éclairage, un angle particulier à ces modifications-là, ces modifications législatives et réglementaires qui sont assez techniques, mais qui ont des implications quand même concrètes et humaines. Donc, il y a des groupes de femmes Pas moins de 46 groupes de femmes à travers le Canada, donc des groupes de défense des droits des femmes, qui demandent au premier ministre Trudeau de carrément retirer les modifications parce qu'on juge qu'elles vont nuire aux femmes déjà ciblées par les politiques américaines extrêmement strictes. Donc, il faut rappeler que l'an dernier, les États-Unis ont modifié leur politique sur les réfugiés pour exclure la violence conjugale comme motif de demande d'asile. Ce qui rend automatiquement irrecevable non seulement les demandes d'asile de femmes violentées aux États-Unis, mais automatiquement au Canada aussi, en vertu des nouvelles dispositions contenues dans le bill Omnibus. Ce qui place le Canada dans une position légale et morale assez douteuse en contravention de ses propres chartes et de nombreuses conventions internationales qui malheureusement sont pratiquement toujours non contraignantes, c'est-à-dire que les États gardent toujours une souveraineté absolue sur le contrôle de leurs frontières. Toujours dans le cadre des demandes d'asile au Canada, un autre sujet, mais toujours dans ce cadre-là. Donc, l'autre nouvelle de ce segment d'actualité fédérale que je vous présente, c'est un rapport du vérificateur général qui est sorti et qui porte sur les délais de traitement trop longs, qui sont de 2 ans actuellement pour les demandes de statut de réfugié, et qui pourraient atteindre jusqu'à 5 ans d'ici 2024. La dernière fois, on vous parlait de petites mesures administratives, des mesurettes, si je peux dire, comme par exemple fusionner des dossiers de différentes instances, par exemple les dossiers de police, des dossiers de santé. C'est quelque chose qui était annoncé. Pas sûr que ça va faire une grande différence dans les délais de traitement. Dans le rapport du vérificateur général, on insiste aussi sur le fait que les documents ne sont pas numérisés. Donc, difficile à croire en 2019, mais c'est bel et bien comme ça que ça marche. Donc, combien de milliers de kilomètres de dossiers en papier répartis dans combien de gros classeurs en métal, dans combien de bâtiments, dans combien de villes et de provinces différentes? Imaginez quand il y a une mise à jour qui doit être faite dans un dossier. Juste un complément d'information à apporter, comme un changement d'adresse, un changement d'employeur, tout ce que ça mobilise comme ressources et comme papier. Donc ensuite, on demande pourquoi il y a tant de délais, tant d'erreurs et pourquoi on exige des demandeuses qui produisent plusieurs fois les mêmes documents, souvent en plusieurs copies. Parfois, il faut les faire certifier. Des fois, il faut les traduire de façon certifiée. Donc, aller voir un traducteur certifié en plusieurs copies, l'envoyer à plusieurs adresses différentes. Pourquoi il y a tant de frais? On se le demande aussi. Pourquoi ça coûte si cher? Donc, le vérificateur général recommande de moderniser tout ça. Il s'attarde aussi, le vérificateur général, dans son rapport au Centre d'appel d'immigration Canada, où rien ne va plus. En 2018, sur environ 2,5 millions d'appels, 70% n'ont pas été acheminés. Donc, 70% des appels, des gens qui appelaient, ils n'ont pas eu de réponse.
C'est genre, c'est quoi, ils mettent en attente, puis tout d'un coup, pop, la ligne
ouais,
coupe.
Ouais, t'écoutes
puis...
du jazz porn cochon pendant une demi-heure. Puis finalement, le système avait des ratés. Des fois, ça se rendait même pas. Des fois, okay. On se rend à un agent, mais c'est pas la bonne ressource, c'est pas la bonne personne à qui on parle, donc c'est pas redirigé. Des fois, ça raccroche. Tous les cas d'espèce existent. Tout ce qu'on veut pas, là, c'est possible, finalement. Soit les gens finissent par raccrocher parce que c'est trop long. Donc, puis même une fois que les gens arrivaient à rejoindre le système automatisé, des fois ça coupait, comme je disais tantôt. Donc, Mathieu, lors de la dernière chronique, la dernière fois, nous parlait de l'aspect très statistique, bureaucratique des réformes en immigration. Mmh. Moi, j'aimerais ajouter peut-être pour compléter là-dessus que la vétusté actuelle des systèmes démontre un peu à quel point les gouvernements successifs s'en foutent depuis des années. Pourquoi c'est pas important pour eux, c'est pas un enjeu qui compte. C'est comme une obligation un peu plate. On est obligé de s'occuper des demandes de réfugiés. Là, il y a quand même des millions qui sont prévus pour essayer de moderniser tout ça. On verra si ça améliore vraiment la situation. Donc, on vous en reparle en 2021, quand Elisabeth May sera... quand Elisabeth May sera chef de l'opposition et que qui sera premier ministre, je vous le demande.
Jason Kenney!
Non, Maxime Bernier!
Ah, c'est encore mieux!
Donc, dans une minute, toujours à l'émission des Apatrides Anonymes, c'est Marie-Ève qui vous parle d'un nouveau premier ministre provincial. Elle l'a un peu nommé tantôt,
oui,
je vous laisse quand même
c'est
deviner.
Le jambon de la semaine.
Le jambon de la semaine, on va avoir une recette avec Marie-Ève dans quelques instants. We'll be right back.
Alors, au retour des apatrides anonymes, on reste dans l'actualité fédérale, mais disons qu'on va passer des sunny ways ou peut-être shitty ways. Si vous avez suivi l'actualité canadienne des dernières semaines, vous savez que l'Alberta a un nouveau premier ministre depuis le 16 avril. Il s'agit du seul et unique Jason Kenney du Parti conservateur uni, un parti de droite créé en juillet 2017 par la fusion du Wild Rose Party et du Parti progressiste conservateur. Le PCU a ainsi délogé le NPD de Rachel Notley avec quasiment 55% des suffrages, en raflant donc 63 des 87 sièges au Parlement albertain, à la Chambre albertaine, ce qui fait du PCU qu'il forme un gouvernement majoritaire, ni plus ni moins. Mais qui est donc Jason Kenney? Jason a une longue carrière politique. Il a été élu à la Chambre des communes pour la première fois lors de l'élection de 1997 sous la bannière du Parti réformiste du Canada. Il a ensuite été réélu lors de l'élection de 2000, cette fois-ci sous la bannière de l'Alliance canadienne, qui est le parti qui a succédé au Parti réformiste. Et enfin, il a été élu pas moins de 5 fois en 2004, 2006, 2008, 2011 et 2015 sous la bannière du Parti conservateur. Donc, on peut voir que le néo-conservatisme de Jason Kenney ne date pas d'hier. On retiendra surtout qu'il a été ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration sous le gouvernement Harper de 2008 à 2013, ainsi que ministre de la Défense nationale à partir de 2015 jusqu'à l'élection des libéraux. Mais c'est donc surtout son passé comme ministre de l'Immigration qui attirera ici notre attention. En effet, en 2011, Jason Kenney s'était hissé à la 4e position du top 10 des pires racistes du Québec et du Canada à l'issue d'un sondage organisé par vos humbles serviteurs, les apatrides anonymes. Je résume ici ses faits d'armes qui lui ont valu cette nomination. D'abord, lors d'une visite à l'Université McGill en 2009, il l'a lui-même reconnu. « Je plaide coupable, je suis raciste. » En tant que ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté, on lui doit de nombreuses coupures arbitraires aux subventions de certains organismes, dont la Fédération canado-arabe, Alternative et Kairos. On lui doit également des changements pour le pire dans le statut des travailleurs-travailleuses migrantes, tout en faisant pression en même temps pour inclure plus de demandeurs dans cette catégorie-là. On lui doit également la levée des moratoires sur les déportations vers le Burundi, le Rwanda et le Libéria, le refus de reconnaître les déserteurs américains comme réfugiés, en plus de nombreux commentaires douteux du genre le Hezbollah est nazi, ou encore sur les demandeurs de statut qu'il a décrit comme des profiteurs qui abusent d'un système trop généreux. Mais au-delà de ses positions radicalement pro-pétrole et de sa récente et étrange obsession pour la péréquation, notons que la campagne du PCU a connu plusieurs controverses chez les candidats, notamment avec un certain Todd Beasley qui s'est fait montrer la porte du parti pour avoir qualifié les musulmans de, j'ouvre les guillemets, « fous qui vénèrent Satan ». Il y a également d'autres candidats qui ont dû s'expliquer pour d'anciennes remarques remettant en question le mariage gay, les droits des personnes LGBTQ ou l'avortement. Mais plus largement, avec la victoire du PCU, on se retrouve en fait avec la moitié des provinces canadiennes qui sont dirigées par des partis conservateurs et toutes les provinces du Canada se retrouvent maintenant dirigées par un homme. Rachel Notley était effectivement la dernière femme qui officiait en tant que première ministre depuis la défaite de Kathleen Wynne en Ontario en juin 2018. Alors, bienvenue au Canada, un boys club néo-conservateur.
toujours aux Apatrides Anonymes, 15h presque 18 sur les ondes, oui, de choc.ca. On passait avec une invitée, une partie entrevue. On en a de temps en temps des entrevues un peu plus longues avec des personnes qui sont dans des groupes militants, des groupes qui organisent, qui s'impliquent dans plein de trucs. Aujourd'hui, Alix Fournier du projet Accompagnement Solidarité Colombie. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, 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 ça va très bien. Merci. Merci d'être là.
Merci.
Surtout que tu es revenu très, très, très récemment.
Ça fait un bon 24 heures.
Un bon 24 heures. Donc, oui. Le décalage qui n'est pas trop pire avec l'Amérique du Sud.
Non, le cerveau est encore en espagnol, mais ça se passe bien.
OK. Ben, si t'en échappes une coupe en espagnol, il n'y a pas de problème.
On va me pardonner.
Donc, on va te pardonner, évidemment. Donc, on invite, comme je disais, des groupes pour parler un peu de leurs activités, des choses qui se passent. Puis, on aime bien ça aussi parler à l'émission, même si elle est récente, d'enjeux internationaux. Donc, c'est pour ça que le PASC amène un attrait intéressant là-dessus. Avant de commencer à parler de la Colombie, puis ce que t'es allé faire, puis les solidarités qu'il y a là-bas, peux-tu nous parler brièvement de qu'est-ce qui est le PASC pour les gens qui connaissent un peu moins?
Oui, certainement. Le PASC, c'est un petit collectif... Oh, je vais me rapprocher du micro.
Oui, oui.
C'est un petit collectif qui fait de l'accompagnement en Colombie. Il s'est donné l'objectif d'articuler une solidarité entre les mouvements de résistance du Nord et du Sud. Une solidarité qui est basée sur des principes internationalistes et anticoloniaux.
Mm-hmm.
Ce qu'on fait concrètement sur le terrain, on va être présent lors de mobilisations, on va participer à des initiatives en éducation populaire, on va appuyer divers secteurs, que ça soit le mouvement féministe, mais que ça soit le mouvement de la paysannerie. Pour ma part, je vais plus travailler dans ce secteur-là au niveau de l'agriculture biologique et moyens productifs, alternatifs de production. On va aussi participer, travailler avec les prisonniers politiques. Finalement, ce qu'on fait au Québec, c'est de visibiliser la situation à partir de différents médiums artistiques ou médiatiques. Mais c'est principalement de dénoncer tous les intérêts des compagnies canadiennes impliquées dans le conflit social et armé en Colombie. Donc, c'est notre travail de faire, justement, d'articuler toute cette solidarité-là entre le Nord et le Sud.
Mm-hmm. Puis, comme vous avez déjà fait aussi beaucoup d'activités au Québec, vous êtes basé au Québec, donc dans la région de Montréal, ouais. Et vous faites beaucoup d'activités d'éducation populaire, sensibilisation et de dénonciation aussi. Donc, le lien entre ici et là-bas, c'est vraiment le cœur de l'action.
Oui, effectivement. Le matériel qu'on va développer au Québec va nous servir. Ça va devenir des outils pour justement tisser les liens. Le travail a une relation étroite. C'est très similaire.
Nord-Sud, comme on pourrait dire dans
exact.
Ces cas-là. Et l'extractivisme est vraiment au cœur aussi de ces enjeux-là.
Oui.
Autant ici que là-bas.
Oui, c'est des enjeux liés à la lutte pour le territoire.
Pour le territoire, parfait. Donc, tu reviens de Colombie, tu as participé à une action, un événement qui s'appelait, qui était sous la forme d'un refuge à Bogota, qui a eu lieu à la fin du mois d'avril, début du mois de mai à peu près.
Oui.
Peux-tu nous en parler un peu? C'est assez original comme événement, on peut dire.
Oui, surtout symbolique.
Symbolique.
Refuge humanitaire qui a eu lieu entre le 28 avril au 2 mai. Ça s'est fini avec la marche pour la Journée internationale des travailleurs.
Mm-hmm, le 1er mai, oui, évidemment.
Mais ça s'est aussi... Ça n'a pas commencé le 28, sinon on est dans un climat de mobilisation en Colombie actuellement.
Mm-hmm.
Il y a eu un paro, une grève nationale le 25. Bon, il y a des communautés à travers tout le pays. Il y a eu des points de mobilisation qui se sont faits un peu avant le 25, mais aussi durant tout le mois d'avril, il y a eu la grève des communautés autochtones.
Mm-hmm.
Donc, c'est dans ce climat-là que, finalement, le refuge humanitaire, c'était un espace de convergence pour les personnes déjà mobilisées. Finalement, ça devient un espace pour visibiliser. C'est vraiment un acte symbolique et politique dans ce sens-là, parce que au-delà des enjeux humanitaires, vu que ça s'appelle un refuge humanitaire, Ce qu'on tente de lancer comme lancer comme message, c'est qu'on veut rester sur notre territoire. C'est plus sous-jacent parce que les actions qui étaient liées au refuge, bon, c'était d'aller voir les ambassades, par exemple en Allemagne, les ambassades allemandes,
oui,
de France et d'Espagne, et de présenter la situation actuelle des leaders politiques et du mouvement social en général. Il y a eu des activités, il y a eu une audience publique qui a été faite au Congrès, directement au Congrès, pour donner de la place aux gens, que ce soit du secteur paysan, afro-descendant, mouvement des femmes, autochtones, mouvement étudiant. Donc, ça rassemblait tous les secteurs pour qu'ils puissent parler de la situation avec la présence des sénateurs de, par exemple... il y avait une représentation du gouvernement pour essayer de faire entendre la situation. En plus de la... Bon, là, je fais de la traduction littéraire. L'opposition politique était aussi
au Parlement,
présente.
Ouais.
Exactement. Il y a eu un événement organisé directement au bureau du procureur pour parler de tout... l'aspect de la criminalisation et de la judiciarisation. J'ai de la misère avec ce mot-là.
Ouais.
Autour des leaders politiques.
Oui, mais politique, on s'entend on parle pas des élus, hein, on parle des mouvements sociaux. Hein,
oui.
Juste pour préciser.
Leaders,
là,
merci de corriger là-dessus. Leaders sociaux. Et finalement, ça a été conclu par une activité comme un panel entre les différents secteurs pour parler de la situation, où est-ce qu'on s'en va avec ça, comment on clore l'événement et tout ça.
Fait que dans le fond, une convergence des différents mouvements sociaux qui déjà se mobilisaient depuis plusieurs semaines, ben, ils se mobilisent à l'année, là, mais il y avait une grève étudiante, entre autres, à l'automne dernier, si je me rappelle bien.
Ouais.
Il y avait eu la Minga, ça c'est la grève, c'est bien ça?
Oui, il n'y aurait pas vraiment de traduction pour le mot Minga.
Minga, hein? Donc, c'est comme une espèce de mobilisation générale, on peut dire ça comme ça.
Mais c'est particulier au contexte autochtone.
Autochtone, oui.
Mais ça serait... la référence, ça serait une grève.
OK. Donc, un arrêt des... Puis, donc, une convergence de tous les mouvements sociaux à Bogota pour dire qu'il y a une situation vraiment urgente de répression, de violence. On peut parler là-dedans, d'assassinat, évidemment. Moi, j'ai lu, en quelque part, 600 morts depuis 2016 dans les leaders sociaux, communautaires, syndicales, etc., étudiants.
Ouais.
Ah, on met là-dedans aussi tout le contexte des accords de paix signés avec l'ancien gouvernement entre la FARC et l'ancien gouvernement qui n'est pas respecté, donc toute une répression qui suit, puis des choses qui devaient se faire au niveau social qui se font pas. Donc c'était vraiment important qu'il y ait une espèce de grosse convergence à Bogota pour dénoncer la situation générale, finalement, je comprends bien.
C'est ça. C'est d'où l'aspect, c'est un lien très étroit avec la conjoncture actuelle de la Colombie. On est dans une situation violente, inquiétante. C'est vraiment emblématique, le refuge humanitaire, mais il y a d'autres événements aussi qui sont emblématiques en ce moment même par rapport à la situation qui démontre que, finalement, le gouvernement... Et il persiste dans sa détermination à saboter le processus de paix. Ce qui se passe avec Jesús Santrich en ce moment, qui est l'ex-négociateur des FARC.
Qui est emprisonné, c'est ça?
Ben, qui est emprisonné, qui a réussi à avoir... c'est la justice spéciale pour la paix. On dit, vous n'avez pas de preuves pour l'extradition.
Ils veulent l'extrader aux États-Unis.
Ouais,
okay,
puis les États-Unis n'ont jamais été capables de délivrer aucune preuve. Donc, la justice spéciale pour la paix qui a été mise en place par les accords.
Les accords de paix, oui.
Ont exigé que Santrich soit libéré. Le procureur, avec ces événements-là, a décidé de démissionner, refusant le fait que Santrich soit libéré.
Soit libéré, ouais.
Et c'est le 17 mai, donc je suis perdue dans le temps.
On est le 19.
Voilà deux jours. Comme il n'y avait pas de preuves, Santrich a été libéré, mais il est sorti au pied de la prison, puis ils l'ont remis en prison selon...
Sous d'autres accusations.
Oui,
d'autres...
un montage de narcotrafiquant encore.
Il est sorti 30 secondes, puis oui, ça, c'est un classique.
C'est un classique,
mais
assez représentatif.
C'est un bon exemple, hein,
de la
situation. Oui, puis la situation actuelle. Dis-moi donc, Alix, qu'est-ce qui s'est passé depuis, sans, on pourrait en parler des heures, là, mais depuis les accords de paix avec l'ancien gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce nouveau gouvernement-là? C'est vraiment un gouvernement encore plus à droite, plus militariste, plus capitaliste. C'est quoi exactement qui se passe?
C'est une intensification de tout ça.
OK.
Faut mentionner qu'il y a quand même un agenda qui fait que l'histoire se répète, dans le sens que c'est le même modèle économique qui cause tout l'appareil qui se met en place en ce moment. Mais oui, effectivement, avec ce gouvernement-là, on est vraiment en face à des politiques de persécution qui consistent à militariser le territoire. C'est des montages judiciaires de A à Z à l'encontre des leaders sociaux. C'est un retour au réseau d'informateurs au niveau de la population civile, renforcement de la cybersurveillance, on a des cas d'assassinat, comme tu l'as mentionné, des disparitions forcées, des faux positifs qu'on appelle.
Des faux positifs, oui.
Des déplacements de population.
Donc, on revient un petit peu à la situation d'il y a une dizaine d'années, finalement.
Je sais pas si on revient parce qu'il y a toujours.
Ben, ça a jamais arrêté, ouais, t'as raison.
Mais il y a une intensification due au fait qu'on est aussi dans une conjoncture de mobilisation et électorale municipale d'ici à l'automne. Donc, c'est tout intensifié. Il reste que la situation au niveau de l'impunité est la même.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est encore autour des 92% là, sur 100 personnes, des cas de violation des droits humains, mais il y a peut-être 8 qui ont des conséquences
judiciaires ou sur des gens réels. Là. Ouais.
Puis, ce qui fait qu'on a à peu près, mais tu as dit, 600 victimes.
Depuis 2016, dans les leaders sociaux, oui.
Dans les leaders sociaux, ce serait à 584, et je pense qu'on est à 147 depuis le nouveau gouvernement.
Qui est là depuis un an et demi, quelque chose comme ça? Oui, OK.
Oui, à peu près, C'est l'équivalent de 1 à 2 leaders sociaux qui est assassiné à tous les deux jours.
Ouais. Puis j'ai lu aussi qu'il y avait une cinquantaine d'anciens FARC qui ont été assassinés aussi depuis qu'ils sont revenus à la vie civile, entre guillemets.
En ce moment.
Puis il y a toujours la guérilla de l'ELN qui est là. Les paramilitaires, c'est moins organisé qu'avant. Mais quand je dis que ça revenait, ce que j'en connais de la Colombie, parce que les gens qui écoutent se disent « Ouais, il me semble que la Colombie, ça n'a jamais vraiment arrêté être la guerre, dans le fond, puis la répression, la violence, entre autres à cause des ressources. » Puis peut-être, je t'amènerai là-dessus, Alix, les compagnies canadiennes actuellement, est-ce qu'elles sont toujours très actives dans plusieurs régions au niveau de l'extraction des ressources naturelles?
Oui.
Oui? Donc, ils participent, ces compagnies-là, encore à ce climat de violence-là et de répression-là.
Oui, puis je dirais qu'ils ont un peu le terrain ouvert, parce que suite au processus de négociation et tout ça, ça favorise un climat stable d'investissement.
Ouais.
Puis, donc, on a aussi des plans de développement. Ils appellent ça les plans de développement national, qui sont déposés par le gouvernement en ce moment, qui vont favoriser... les titres pour l'exploration des compagnies canadiennes, ils appellent ça des titres express. Donc, les délais sont beaucoup plus courts pour avoir ces titres-là.
OK.
Mais on voit qu'il y a toute une série de mécanismes qui va favoriser vraiment la concentration des terres qui vont être...
Octroyées
aux multinationales.
OK. Peux-tu m'en nommer une ou deux vite? Actuellement,
La Gran Tierra qui est là depuis, je sais pas, des années. Il a participé dès 2001 à changer le code minier, de faire en sorte que le taux d'imposition pour ces compagnies-là est beaucoup plus avantageux.
Ben oui.
Comment elle s'appelle? C'est qu'elle a changé de nom 5000 fois.
Ouais, ça c'est un bon vieux truc.
C'est un bon vieux truc.
Les fusions aussi là-dedans, là, ouais.
Oui.
Bon, c'est pas grave.
Pacifique Rubiales, qui a changé de nom.
OK. Donc, il y a des compagnies indiennes encore qui sont là.
Frontera.
Ah, Frontera, voilà. Mm-hmm. Ouais. qu'est-ce qu'on faut conclure dans quelques instants, qu'est-ce qu'on peut faire ici au Canada comme personne, comme groupe, comme pour dénoncer ou appuyer ce qui se passe en Colombie actuellement? Ben dénoncer ce qui se passe puis appuyer les groupes qui luttent là-bas.
Je pense que le mot d'ordre, ça serait de tisser les liens. C'est pas seulement de se maintenir au courant de ce qui se passe, mais vraiment...
Mais déjà, c'est une bonne étape, parce que beaucoup de gens savent pas ce qui se passe. Hein.
C'est une super bonne étape. Mais
les grands médias en parlent pas ici.
Ouais. La visibilité est un aspect qu'il faut travailler vraiment énormément. Mais de tisser des liens pour faire en sorte que cette information-là soit aussi inclue dans nos stratégies ici, parce qu'on a des luttes par rapport au territoire. Si on regarde le camp à Unistotem en Colombie-Britannique, ouais. Donc toutes ces conjonctures-là qu'il faut analyser de plus proche, mais aussi de comprendre nos impacts, les impacts qu'on a dans les pays du Sud, par mm-hmm. exemple. Quand on regarde ce qui se passe aux frontières par rapport à ici. Donc, essayer de faire des liens.
Des liens, ouais.
Et d'essayer de c'est beau, là, la lutte environnementale, mais c'est de comprendre aussi les luttes liées à la justice énergétique derrière ça, de comprendre comment les populations sont affectées. Justement par le modèle économique qu'on a en ce moment.
Mm-hmm. Qu'on peut appeler capitalisme, qu'on peut appeler impérialisme au niveau politique, etc. Ouais. Merci beaucoup, Alix. C'était cool, ça passe vite. Hein?
On a
beaucoup
de contenu.
Oui, hein? Donc, je rappelle, tu es du projet Accompagnement Solidarité Colombie. Vous avez oui. un site Internet, vous avez des infolettes, beaucoup d'informations, dont c'est PASC.ca, je pense. PASC.ca, il me semble.
Oui, ou sinon, la bonne vieille barre de recherche Projet Accompagnement Solidarité Colombie.
Exactement.
Il y a énormément de... On a énormément d'archives, de...
De contenu, de vidéos.
De matériel.
Oui.
Pour pouvoir mieux s'informer là-dessus.
Oui, je le consulte souvent, votre site. Donc, voilà. Fait que merci. Tu revenais de Colombie, de Bogota, pour l'événement Refuge, donc, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, merci.
Merci à toi.
Et à une prochaine.
À une prochaine.
On y va en musique à l'émission Les Apatrides de Zananime.
toujours à l'émission Les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On écoutait la pièce Le même discours du groupe Bleu Nuit. Pièce qui est dans le palmarès franco de Choc, qui est sur le bord de sortir du palmarès, je pense. Bleu Nuit, qui était en concert, je crois, la semaine passée au Psyfest à l'église Saint-Enfant-Jésus-du-Malène. Il paraît que c'était très bon. Donc, Simon qui est là au micro avec vous pour vous présenter le bon coup de la semaine.
Yay!
Yeah, Marie-Ève est contente.
Oui.
Mathieu a l'air content. Non, il est occupé à la console. Donc, suite à une longue, très longue saga judiciaire, la Cour suprême a tranché. Il sera possible pour une personne en attente de statut de contester sa détention. Donc, c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même une grosse amélioration. Donc, ce sera possible ça pour une personne qui est emprisonnée par une instance fédérale de manière souvent très arbitraire. Donc, il y a l'Agence des services frontaliers, par exemple. Il y a des commissaires dans certaines instances fédérales qui décident d'emprisonner les demandeurs de statut. Et faut quand même faire attention. Ils ont toujours les pleins pouvoirs. Ça n'a pas changé. Mais en matière d'incarcération, donc on peut toujours emprisonner des demandeurs de statut, leurs familles, leurs enfants, etc. Donc, ces pouvoirs-là sont maintenus au niveau des agences et des commissions fédérales, mais par la suite, une fois détenue, une personne peut, soit par elle-même, soit par le biais de ses avocats ou de son entourage, demander à ce que la détention soit validée ou invalidée par un juge de cour supérieure, donc par un juge provincial. Donc, ce fait-là de solliciter une décision d'un juge quant à la légalité ou la régularité de sa détention, ça s'appelle un habeas corpus.
Oui.
Je sors mes plus beaux mots latins. Ça avait été refusé à un monsieur Rehman Shira, un Pakistanais d'origine qui avait demandé l'asile en 2006 et qui a passé 11 ans en prison.
Oui, sans jamais pouvoir
11 ans.
Contester.
C'est fou. Donc, on salue quand même son courage, sa ténacité. Il rend service à beaucoup de gens en ayant fait ces démarches judiciaires-là. Donc, il avait demandé à la Cour supérieure de l'Alberta, ou plus poétiquement appelée la Cour du banc de la Reine de l'Alberta, de lui accorder un habeas corpus, c'est-à-dire une validation judiciaire de sa détention, et ça lui avait été refusé, ce que la Cour suprême considère comme une erreur de droit. Donc, attention, il s'agit effectivement d'une grande victoire juridique, mais il faudra voir ensuite dans la pratique, est-ce que les personnes détenues et les personnes qui les conseillent auront le réflexe d'entreprendre ces démarches-là? Si oui, est-ce qu'il y aura des délais épouvantables? Quel genre de décisions seront rendues par les juges provinciaux? Bref, dossier à suivre dans les prochaines années. On verra aussi si ça modifie le comportement des agences fédérales et des commissaires qui emprisonnent un peu trop facilement, selon moi. Donc, est-ce que ça va modifier ce réflexe-là? À voir aussi. Donc, restons positifs. C'est quand même le bon coup de la semaine. Un mini bon coup de la semaine aussi. Je peux pas passer sous silence le fait que Richard Martineau, ce grand défenseur de la liberté totale d'expression, là, monsieur je suis Charlie, monsieur on peut rire de tout, il poursuivait Ricochet et par le fait même Alexandre Fata, Marc-André C pour des centaines de milliers de dollars. Donc, c'est une poursuite baillon. Et il a choqué. Il a décidé de laisser faire. Je pense qu'il voulait pas exposer ses propres contradictions devant une instance légale reconnue. Donc voilà, c'était un 2-1, le bon coup de la semaine. Donc, c'est ce qui met un terme à ma chronique. Et ensuite, on retrouve Marie-Ève.
Lors de notre dernière émission, j'avais abordé brièvement les élections européennes qui doivent avoir lieu dimanche prochain, le 26 mai. Je tenais à revenir plus en profondeur sur le sujet aujourd'hui parce que ce scrutin-là revêt une importance particulière en ce qui concerne les enjeux touchant à l'immigration et aux frontières. Au-delà du Brexit, cette élection se déroulera dans un contexte où on a assisté à l'arrivée ou à la reconduction au pouvoir dans plusieurs pays de gouvernements eurosceptiques, populistes, voire d'extrême droite. Par exemple, en Hongrie en 2014, en Pologne en 2015, en Autriche en 2017 et plus récemment en 2018 en Italie. Il faut savoir que le Parlement européen est généralement divisé en deux grandes tendances, celle du Parti populaire européen, qui est de droite, et celle d'une coalition de gauche qui est formée du Parti socialiste européen et de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, de laquelle Macron fait partie. À L2, ces tendances disposent de 54% des sièges, le reste étant occupé par d'autres partis, d'une part de gauche, comme le Parti européen vert, le Parti de gauche européen qui regroupe socialistes et communistes, et d'autre part des partis de droite, dont l'Alliance des conservateurs et réformistes européens, l'Alliance pour la démocratie directe en Europe, là c'est pas un parti de gauche, là c'est des eurosceptiques, et le mouvement pour l'Europe des nations et des libertés, qui lui est carrément extrême droite, dans lequel on retrouve le Rassemblement national de Marine Le Pen et la Ligue du Nord également là de Salvini. Donc c'est pas mal l'Europe des nations et des libertés, c'est pas mal la tendance de laquelle on doit se méfier, qu'on doit craindre le plus en fait. Il y a certains analystes qui prévoient que les élections de 2019 pourraient mettre fin à la grande coalition entre le groupe populaire et le groupe des socialistes et démocrates et nécessiter des alliances beaucoup et en tout cas entraîner des alliances beaucoup plus complexes peut-être à quatre parties. Vous pouvez donc, dans ce contexte-là, imaginer les tractations qui se jouent entre les différents partis de la droite radicale pour remporter un maximum de sièges au Parlement européen. Par exemple, le 2 mai dernier, il y a Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue du Nord italienne, qui est aussi candidat pour le mouvement... il est candidat du mouvement pour une Europe des nations et des libertés au scrutin européen. Donc, Salvini rendait visite au premier ministre souverainiste hongrois Viktor Orban, qui lui, dont le parti est membre du Parti populaire européen, qui est le PPE. Orban avait alors promis de s'engager dans une coopération avec Salvini après les élections européennes autour d'une ligne anti-immigration. Trois jours plus tard, donc le 5 mai, lors d'un passage à Bruxelles, c'était au tour de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui est également membre de l'Europe des Nations et des Libertés, de courtiser Viktor Orban, ainsi que le Parti Droit et Justice polonais, qui lui est membre de l'Alliance des conservateurs et réformistes européens. Marine Le Pen, elle s'est alors adressée à Viktor Orban en ces termes. C'est à lui de voir s'il se trouve plus en cohérence politiquement avec des membres du PPE qui ont voté contre lui, qui ont voté la relocalisation forcée des migrants dans les pays, ou s'il se sent plus en cohérence politiquement avec des mouvements tels que les nôtres. Marine Le Pen en a rajouté cette semaine, alors qu'elle était de passage à Milan, en Italie, pour une rencontre des nationalistes européens. Elle en a profité pour défendre le bilan de l'Europe des nations et des libertés, qu'elle n'a ni plus ni moins qualifié de fantastique, mais aussi pour fustiger Emmanuel Macron et l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, qui porte l'acronyme ALDE. Je la cite, « L'ALDE est le groupe le plus en pointe pour ouvrir nos frontières à l'immigration massive, le plus en pointe pour défendre l'ultralibéralisme qui a sacrifié les économies de nos pays respectifs, le plus en pointe pour lutter contre tout système de protection sociale. » Marine Le Pen considère que elle et ses alliés ont donné au peuple la possibilité de profondément réorienter la construction européenne, poursuivant sur sa lancée populiste en affirmant ceci, « Nous ne voulons plus de cette oligarchie sans repère, sans racine, sans âme qui nous dirige, avec pour seule ambition la soumission et la dilution de nos nations. Nous ne voulons plus de cette union européenne européenne qui fait souffler sur l'Europe les mauvais vents de la mondialisation sauvage. Elle termine sur cette jolie phrase, la mondialisation sans régulation, c'est faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Hey. Bon. Donc, Marine Le Pen, je sais pas, là, elle a, c'est comme un discours communiste de droite, c'est un peu particulier. Je pense qu'elle elle est due pour... voilà. pour vous dire à quel point ce scrutin du 26 mai est important, il y a même Steve Bannon, ex-stratège de Donald Trump, qui est venu soutenir le Rassemblement national de Marine Le Pen dans une entrevue qu'il a accordée au journal Le Parisien. Steve Bannon dit avoir choisi de se rendre à Paris parce que de toutes les élections, dit-il, qui auront lieu le week-end prochain en Europe, c'est de loin ici, en France, la plus importante à cause du positionnement mondialiste d'Emmanuel Macron, ajoutant que c'est un référendum sur lui et sa vision pour l'Europe. Et Bannon prédit même, un tremblement de terre le dimanche prochain. Le 27 mai. Alors, tremblement de terre ou pas, reste que le scrutin européen attire généralement assez peu de foule. Le taux de participation en 2014 ayant à peine atteint 40%. Selon les chiffres du Parlement européen, le plus fort taux de participation aux élections européennes de 2014 était en Belgique avec presque 90% de votants. Bon, il faut toutefois nuancer ce résultat, puisque le vote est obligatoire en Belgique, tout comme au Luxembourg, qui occupe la deuxième place. Alors, on verra dimanche prochain lequel est le plus populaire. Sont-ce les élections européennes ou encore Eurovision? Pour ma part, je parie sur le deuxième. Sur ce, on s'en va en musique avec une pièce très à propos de Asian Dumb Foundation qui s'intitule « Forteresse Europe ».
Donc, c'est un remix de la pièce Fortress Europe de Asian Dub Foundation. Agenda antiraciste, agenda militant, agenda de l'actualité. Ben, peut-être vous dire cette semaine, vite, qu'il y a eu une conférence de presse pour lancer la déclaration contre la nouvelle prison pour les migrants à Laval. Cinquantaine de groupes qui ont appuyé la déclaration. Donc, une conférence de presse qui a été quand même un peu couverte par les médias, donc, cette semaine. Donc, suivez l'actualité là-dessus parce qu'il va y avoir le nom de l'entrepreneur général désigné pour la construction va être dévoilé cette semaine, la semaine qui commence. Donc, il va y avoir beaucoup de mobilisation là-dessus dans les prochains temps. Je voulais vous parler de... j'en ai parlé il y a deux semaines en lien avec tout ce qui se passe au fédéral. Simon en a parlé aussi tantôt dans sa chronique d'actualité nationale. Il y a une semaine d'action cette semaine, le 20 mai, qui commence donc demain, qui s'appelle Ouvrons les frontières pour la fin de l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, qui est pancanadienne, qui fait le lien avec les fameuses dispositions dans le projet de loi budgétaire et qui fait aussi des liens avec le fait que le Canada et les États-Unis risquent de négocier que l'entente des tiers pays sûrs s'applique à toute la frontière et non pas seulement les post-frontières, mais à toute la frontière. Donc, c'est un peu dans l'air. Malheureusement, j'ai pas vu beaucoup d'activités au Québec qui étaient confirmées. Donc, allez sur le site de Solidarité sans frontières cette semaine. Sûrement qu'on va avoir des nouvelles pour cette semaine de mobilisation là, qui a lieu donc dans les cette semaine et qui va mener à l'Assemblée, pas à l'Assemblée, mais à la grande marche du 16 juin, la marche Un statut pour tous et toutes, construire ensemble une cité sans frontières, qui a lieu le 16 juin 2019 à 14h30 au parc Nelson Mandela, métro Plamondon. Donc, marche festive et pique-nique. D'ailleurs, il y avait une assemblée publique aujourd'hui, toute l'après-midi, pour préparer cette assemblée-là, cette manifestation-là, pardon, du 16 juin 2019. Et je voulais vous parler aussi du Festival international de théâtre anarchiste de Montréal, 14e édition qui commence, qui a lieu cette semaine, c'est-à-dire les 21 et 22 mai à la Sala Rossa. Il y a une pièce qui a attiré mon attention, la pièce Woman Strike.
De Norman Navratky, c'est ça?
Exactement, de Norman Navratky, en lien avec la grève générale de Winnipeg de 1919, qui fait donc 100 ans actuellement au mois de mai 2019. Ils en ont parlé un peu dans les médias cette semaine. Donc, pièce documentaire écrite par Norman Navratky, qui est musicien, auteur, dramaturge montréalais, qu'on connaît assez bien dans le milieu. Donc, une pièce documentaire basée sur la vie de 9 femmes travailleuses immigrantes. Donc, c'est un autre point de vue que les syndicats ou les travailleurs plus masculins ou les leaders masculins. Donc, 9 femmes travailleuses immigrantes qu'on suit un peu dans cette pièce-là, qui est impliquée dans la grève générale qui a duré 6 semaines. Je rappelle que c'est une grève de 35 000 travailleurs travailleuses. À l'époque, c'était beaucoup. une grosse partie de la ville de Winnipeg. Donc, ces femmes-là représentent quelques-unes des milliers de femmes étrangères, entre guillemets, sans nom et sans visage du nord de la ville qui ont participé à cet événement historique. Donc, travailleuses domestiques, travailleuses des ateliers, mères célibataires, mères de famille. Donc, leurs histoires ont été très peu racontées. Donc, c'est ça un peu l'objectif de la pièce écrite par Norman Navratky. Et ils ont été très, très impliqués autant que les hommes dans la grève et ils n'ont jamais eu la reconnaissance qu'elles méritaient, évidemment. Donc, je trouve que c'est une pièce historique à la fois sur les enjeux aussi d'immigration, de racisme, féministe et tout. Les actrices seront Micheline Chartier, Romy Léa, Mélissa Toussaint et Julie Tristan. Donc, ça a lieu à la Sala Rossa ce mardi 21 mai à 19h avec d'autres pièces. Celle-là dure 45 minutes. Elle est en anglais et c'est produit par le Babou Bouchka Theatre, qui a été fondé spécialement pour cette pièce-là, entre des gens de Winnipeg et de Montréal.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, là, ils jouent à Montréal avec les actrices que tu as nommées, mais la pièce se déplace aussi après ça aussi à Winnipeg avec des actrices de Winnipeg qui vont jouer la pièce également.
Okay. Donc, bonne information, je ne l'avais pas. OK, merci.
Oui, ben c'est Norman qui m'a dit ça.
Non, on connaît Norman, mais on ne fait pas de publicité... ciblé, inquiétez-vous pas. Donc, c'est dans le cadre du Festival des théâtres anarchistes de Montréal, qui présente aussi 30 artistes de 7 compagnies venant du Chili, des États-Unis, de France et de Montréal, pour 2 soirées, les 21 et 22 mai à la Sala Rossa. Donc, anarchistetheatrefestival.com. Allez faire un tour, c'est à peu près $12 par soir. Il y a 3-4 pièces, de toutes sortes de styles, hein. On parle...
Il y a à boire et à manger là-dedans, mais...
Ah oui, on dit ça?
France, cette expression à boire et à manger, ouais. Mais ça vaut la peine.
Puis il se passe, il y a des pièces qui parlent du Chili, qui parlent de Mauricio Caguel, on parle aussi de frontières, de néolibéralisme. Donc, allez faire un tour. C'est une alternative au théâtre traditionnel et c'est un peu plus militant. Donc, voilà pour l'agenda militant.
Mais ne pas oublier le Salon du livre anarchiste qui suit aussi le week-end prochain.
Oui, madame. En fin de semaine prochaine, à Montréal, au CEDA. Comme mot de la fin, il faut quand même que je fasse mon mot de la fin, Marie-Ève.
Ben oui.
Je te remercie, Marie-Ève. Je remercie Simon.
Merci à toi. L'animation, Mathieu, t'as excellé, évidemment.
Comme toujours. Et vos contenus étaient fantastiques.
Nous sommes fantastiques.
Donc, il nous reste pas grand temps. Je vais conclure, Marie-Ève. Donc, merci à Alix du projet Accompagnement Solidarité Colombie pour sa présence ici en entrevue. Très bonne entrevue. On est de retour le 2 juin. On n'a pas encore déterminé le contenu, mais l'actualité est foisonnante, n'est-ce
comme
pas?
Toujours.
Et sinon, pour nous écouter en balado, les quatre autres émissions ou celle-là, choc.ca, on a une page d'émission au nom des Apatrides Anonymes. Sinon, notre site, apatridesanonymes.info, et notre courriel pour nous rejoindre, Apatrides Anonymes. Vous avez compris? Apatrides Anonymes, @resist.ca. @resist.ca. Okay. Donc, nous ne sommes pas encore membres de l'Empire du Mal. Donc, merci aux auditeurs, auditrices. Merci à Choc. C'est la saison d'été, mais nous, on est là pas mal tout l'été. On se reparle donc le 2 juin.
Sable d'or.